Nous allons terminer ce colloque par l'intervention de Didier Daninx, auteur d'une importante œuvre littéraire rendue célèbre par Meurtre pour mémoire, où l'on voit l'importance de l'histoire dans la fiction. Son intervention s'intitule « Michel Ragon et les chemins de traverse de la littérature ».
Merci. Au printemps 1990, le magazine mutualiste Viva, lié à la CGT et auquel Jean-Claude Izot apportait son concours, me dépêcha à Moscou pendant une quinzaine de jours pour humer l'air que Mikhaïl Gorbatchev brassait depuis la Place Rouge. Furetant dans les boutiques de Roissy avant l'envol, j'étais tombé sur La mémoire des vaincus, le roman de Michel Ragon qui venait de paraître. Tenant en grande estime Charles-Louis Philippe, Eugène Dabi, Louis Guillou, j'avais lu l'histoire de la littérature prolétarienne en France, fréquentant depuis 15 ans nombre de caricaturistes de l'Unité, du Canard enchaîné, de l'Humanité et de la Vie ouvrière. J'avais également été sensible à son intérêt pour les maîtres, alors sous-estimés du dessin satirique. J'ignorais le romancier. Là, je fis connaissance dans les airs avec le personnage principal, Fred Barthélémy, un anarchiste français qui rallia la révolution russe en 1917. Je ne connais qu'une méthode pour comprendre les villes. Partir du centre et marcher devant soi au hasard des rues, bifurquer quand un couloir vous appelle. Quand des éclats de voix s'échappent d'une ruelle, se laisser attirer par le bruit d'une machine, une odeur, un autre regard qui croise le vôtre. Prendre le bus, le métro, le tram, rôder dans les gares, trouver les marges, les frontières. Il faut à tout prix échapper aux images déjà digérées, aux souvenirs des autres, à leur parti pris, aux sentiments que veulent nous imposer ceux que l'on nomme si justement guides-interprètes. Le Moscou que je découvrais était en proie aux pénuries. Les fils transis serpentaient sans fin devant les pharmacies, les dépôts de pain, les débits de tabac, jusqu'au métro, temple du socialisme qui était devenu inaccessible, la petite pièce de 5 copecs qui commandait l'ouverture des portillons, ayant disparu de la circulation. Seuls les descendants des rescapés du siège de Moscou échappaient aux restrictions, ayant accès, par filiation, à la chaîne de magasins vétérans que les moscovites ne désignaient plus que sous l'appellation « magasin Merci Hitler ». Chaque matin, en attendant que la température grimpe avant de sortir, je lisais quelques pages de « La mémoire des vaincus ». Et parvenu au milieu du récit, je m'attardais sur le chapitre que Michel Ragon consacre à l'enterrement du prince Kropotkin à Moscou le 13 février 1921. Théoricien du communisme libertaire, savant, anthropologue, géographe, il était revenu en Russie après un long exil, soutenant le gouvernement de Kerensky, puis dénonçant dès l'automne 1917 la mise en place de la dictature bolchévique. Lénine, qui conseillait la lecture des écrits de Kropotkin à propos de la Révolution française, qui reconnaissait l'importance de son apport à la lutte contre le tsarisme, était d'avis de lui faire des obsèques nationales. On confia à Rosmer le soin de parler au nom de l'Internationale communiste. Sofia Kropotkin, sa veuve, s'y opposa en rappelant aux bolcheviks la présence de centaines d'anarchistes dans les journées prolétariennes. Le jour de l'enterrement, raconte Michel Ragon, plus de 100 000 libertaires se rassemblèrent devant la maison des syndicats où le cercueil ouvert était exposé depuis 2 jours. Dernière manifestation hérissée de drapeaux noirs avant que ne tombe pour des décennies la profonde nuit des idées. Dans le roman, ils refusent de bouger, exigeant la libération de leurs amis emprisonnés. Un ordre venu du Kremlin accorde alors une douzaine d'heures de permission aux embastillés. Les prisonniers se portent en tête du cortège, près de Emma Goldman, derrière une banderole qui proclame « Là où il y a autorité, il n'y a pas de liberté ». Kropotkin enterré, ils se présentent devant les lourdes portes de la prison de la Boutyrka pour regagner leurs cellules. 15 jours plus tard, la totalité du mouvement anarchiste est interdite sur l'ensemble du territoire soviétique. 15 jours encore, et le 17 mars 1921, le soviet des marins de Kronstadt est écrasé par l'armée rouge dirigée par Trotsky. Livre en main, je me suis rendu à pied au lointain cimetière de Novodevitchi, accolé à un couvent somptueux et où reposent Tchekhov, Prokofiev, Chostakovitch ou Tchaliapine, refaisant dans une capitale en faillite historique le parcours des vaincus, entendant leurs cris, leurs exigences grâce aux mots que Michel Ragon fait dire à Fred Berthélémy. À l'entrée du cimetière, le milicien en armes m'a toisé quand je lui ai demandé où se trouvait la tombe de Kropotkine. Donc, curieusement, une rue, un quai, une station de métro portaient le nom, même si la statue dressée à l'entrée du métro est celle de Friedrich Engels, que chacun prend pour le prince. J'ai erré entre les tombes surmontées de statues, me perdant dans le carré des architectes, le carré des cosmonautes, le carré des musiciens, le carré des travailleurs, le carré des généraux. Je me suis arrêté devant un général des transmissions en béton, représenté pour l'éternité au garde-à-vous, un téléphone en ciment collé à l'oreille. Puis un des nombreux clochards qui vivent en guidant les touristes dans cet océan de marbre m'a fait signe de le suivre. Il s'est mis à mon service en échange d'un paquet de Marlboro, d'une bouteille de vodka. Il m'a fait faire le tour des célébrités pendant 2 heures jusqu'à la tombe de Khrouchtchev. Devant mon insistance, il a fait appel à la mémoire d'autres clodos et nous avons fini par trouver la tombe de Kropotkine à l'écart, masquée par la végétation. Une simple pierre érigée dans les herbes folles, un nom, de date, 1842-1921. Le clochard a accepté de me prendre en photo devant le monument. Une fois développé, je l'ai envoyé aux éditions Albin Michel, à l'intention de Michel Ragon, que je ne connaissais pas, que je ne connaissais qu'à travers le papier, et en racontant ce que je viens de vous dire. De retour à Paris, j'avais remis le résultat de mon voyage à la rédactrice en chef du magazine Viva, un papier où je faisais l'inventaire des signes du désastre à venir. Elle m'avait convoqué les larmes aux yeux, me disant que la rédaction était réticente à la publication, mais qu'elle s'engageait à mettre tout son poids dans la balance. L'article était paru à l'automne 1990, déclenchant une vague de protestations de lecteurs amateurs de Village Potemkin. Un an plus tard, l'URSS s'effondrait, balayé par le courant d'air né 2 ans plus tôt de la dislocation d'un mur à Berlin. Au même moment, Michel Ragon publiait un nouvel ouvrage intitulé « La voie libertaire » dans l'indispensable collection « Terre humaine ». Richement illustré, j'ai eu la surprise de trouver le fac-similé de ma lettre postée de Moscou un an plus tôt et la photo prise par le clochard moscovite au cimetière de Novodievitchi où je pose devant la tombe de Pierre Kropotkine. Par la suite, j'ai lu les romans précédents par lesquels Michel Ragon est arrivé en terre de pleine littérature, « L'accent de ma mère » et « Ma sœur aux yeux d'Asie ». 2 livres consacrés à 2 femmes de sa vie de manière manifeste, mais où, pourrait-on dire, l'absence du père est omniprésente. C'est Thierry Maricourt qui m'avait éclairé sur la genèse du héros de la mémoire des vaincus, Fred Berthélémy, sorte de double rêvé de l'auteur et inspiré grandement par un père littéraire, un père de substitution, en la personne de Henri Poulaille. La mort de son père, Aristide, alors qu'il n'a que 8 ans, le confine au tête-à-tête avec sa mère, Camille, sous l'autorité de la chef de clan, la tante Victorine, des femmes entourées d'hommes empêchés, absents de leur vivant. Plusieurs anecdotes relatées par André Derval dans son Michel Ragon singulier et pluriel entrent en résonance avec ce manque que rien ne comblera jamais. L'une d'elles concerne Karl Marx, dont Michel Ragon se défie philosophiquement, mais dont il pointe également les mœurs bourgeoises, en contradiction totale avec le message adressé aux masses exploitées. Il relate ainsi, Michel Ragon, que la bonne allemande Elena de Muth, qui suit le couple dans ses exils, donne naissance en 1886 à Londres à un fils, Frédéric, que l'amant Karl Marx refusera de reconnaître, le confiant un temps à son ami et soutien financier Friedrich Engels. Un bâtard, ainsi qu'on les désignait alors, qui deviendra ouvrier, syndicaliste, militant du Parti travailliste. Michel Ragon est plus directement partie prenante quand, en 1947, à la brasserie Lippe, il rencontre Louis Aragon, alors qu'à 25 ans, il vient de se jeter dans le bain littéraire avec son ouvrage « Les écrivains du peuple ». Le mépris du dandy glorieux pour l'auteur prolétarien le marque profondément quand Aragon s'amuse de la sonorité proche de leur nom lui lançant « Ragon, c'est votre nom ou un pseudonyme ?» À la guerre, j'avais une ordonnance qui s'appelait Ragon. Vous devriez changer de nom, sinon il vous manquera toujours un A. Tout le monde ignorait à l'époque que le nom d'Aragon était une invention, qu'il avait été forgé par un père haut placé pour masquer une relation adultère. Aragon n'a jamais existé. c'est une vraie fausse identité que la morale du temps a imposée. On sait aujourd'hui que la mère d'Aragon s'est fait passer pour sa sœur, que ses oncles et tantes jouaient le rôle des parents. Tout cela pour travestir l'identité du géniteur, Louis Andrieux, homme politique responsable de la répression de la Commune de Lyon, devenu, au moment de la naissance du futur poète, préfet de police de Paris. Louis Aragon faisait bien de s'accrocher à son A, comme à celui d'une agence de notation. Il ne possédait en vérité que ce A initial, qui révélait en fait le secret de sa naissance, le A d'Andrieux, le préfet dont le portrait est toujours accroché à un mur du ministère de l'Intérieur, place Beauvau, entre ceux de François Vidocq et de Maurice Papon. Tout au long du roman, l'accent de Manère, la Vendée martyrisée de 1796, de 1793, ne cesse de faire irruption. L'histoire des convulsions se mêle à l'histoire familiale, à la restitution d'un parler oublié, qui fait renaître en moi les souvenirs d'enfance, retrouvant dans ces pages les mots que mes aïeuls charentaient, les phrases que prononçait Pierre Dugas de Mons, un natif du village Saint-Ongeais dont je viens, Fléac-sur-Seugne, et qui découvrit le Québec en 1608 avant d'être évincé de l'histoire des prises de possession coloniales par Champlain, au motif qu'il était protestant. Relisant aujourd'hui ce roman, c'est ce mot colonial qui a émergé à l'épnecté, et ce mot colonial accompagne l'irruption du père, Aristide, dans ce monument érigé en mémoire de Camille, la mère. Ces pages sont pour moi parmi les plus belles de Michel Ragon, le maquisard de 20 ans dont l'esprit fraternel ne fit jamais défaut aux révoltés d'Indochine ou d'Algérie, aux militants soumis à la question. Rien n'est encore dit de ce qui suivra bientôt, mais ce passage annonce les prochains aveux. Voici ce qu'écrit Michel Ragon. Mon père avait fui la misère paysanne. Il avait tant couru pour qu'elle ne rattrape pas qu'il se trouvait presque aux antipodes. Et ses tonkinois, qui s'accroupissaient à ses pieds, fuyaient eux aussi leur misère, bien sûr. Ils étaient frères de misère, mais ils ne savaient pas. Ils se croyaient différents. Leur alliance reposait sur une sorte de malentendu qui ne durerait pas. Un jour, ces soldats indigènes se mettraient debout et le malheureux colonial s'apercevrait qu'en réalité, tous les quatre mesuraient la même taille. Il s'apercevrait aussi qu'il restait seul contre trois. Heureusement, mon père ne connut pas ce bouleversement. Il mourut dans la sérénité d'un monde qui inaugurait à Paris l'exposition coloniale de 1931. Son univers, l'univers qu'il contribua bien modestement à édifier, arrivait à son apothéose. Le temple d'Angkor Wat, reconstitué en grandeur réelle à Vincennes, les danseuses sacrées du Cambodge firent leur voyage jusqu'à la Seine. Toutes nos colonies envoyèrent à Paris leurs merveilles. Aristide, le conchin chinois, n'a pas survécu à l'exposition coloniale de 1931. Et même si je regrette qu'il ne soit pas resté près de moi plus longtemps, je sais bien que sa chance fut de n'avoir pas connu la suite, de n'avoir pas vu la photo de son triomphe déchiré par le soubresaut de l'histoire. Il y a dans le regard de ce marsouin beaucoup de souvenirs que je devine. J'ai tant rêvé sur cette photo depuis près de 50 ans qu'il me semble même les avoir vécus. Mon père avait ramené avec lui une telle profusion d'images que celles-ci virevoltaient devant ses yeux comme des papillons de nuit, des images qui se brûlaient les ailes dans l'alcool des bistrots. Comment peut-on reprendre l'existence monotone des Pékins quand on s'est promené dans les corbeilles des pousse-pousse tirées par des coulis aux jambes nues sur le boulevard Norodom à Saïgon, quand on a bagnaudé tant d'années dans la belle rue Katina, ombragée de platanes et bordée de vérandas fleuries d'amaryllis. Mon père dormait peu. La nuit, ce damné pays d'Asie revenait le visiter et il se réveillait en sursaut, trempé d'une mauvaise sueur, poursuivi par les grimaces des chimères, par les rires des dragons, par les contorsions des démons tireurs de langue. Le charme étrange, languide, morbide, pervers de l'Asie le plongeait dans des rêveries malsaines. La suite, bien sûr, c'est le roman « Ma sœur aux yeux d'Asie » dans lequel Michel Ragon révèle que son père n'a pas ramené d'Asie qu'une profusion d'images qui virevoltent devant ses yeux comme des papillons de nuit. Une enfant métisse, née au Cambodge, l'accompagnait, Odette, la demi-sœur de Michel Ragon qu'il n'a connue que dans sa prime enfance, avant de la retrouver brièvement en 1940 lors de l'Exode. Le récit est principalement composé d'extraits de lettres écrites par le père de Ragon, Aristide, un Vendéen parti pacifier le Tonkin. La rencontre avec la mère Camille n'a rien de fortuit. C'est Victorine, la chef de clan, qui l'a organisée par-delà les océans, les continents, jusqu'au mariage de raison de ce marsouin en fin de carrière avec une blanchisseuse, une ravaudeuse, une Camille Sourisseau que le spectre de la vieille fille menace. Les missives adressées par Aristide à son frère, à Victorine, disent le quotidien des postes de garde, le mépris pour les anamites, mais aussi la lente absorption des volontés sous le regard d'apparence vide des colonisés. Une de ces lettres. J'ignorais que ces 2 mois passés ensemble, l'été 40, seraient nos dernières grandes vacances, que nous allions, elle, dans la région parisienne, moi à Nantes, vivre un interminable temps de guerre et qu'après, nous être aimés si fugitivement, nous ne nous reverrions jamais. Odette Ragon décède de tuberculose en janvier 1943, une maladie contractée en Indochine. Elle décède au sanatorium de Villepinte, alors en Seine-et-Oise. Un bâtiment sinistre planté au milieu des plaines betteravières à une époque où les restrictions frappant les hôpitaux, les asiles précipitent la mort de dizaines de milliers de malades. Un sanatorium que j'ai eu sous les yeux pendant 3 ans quand j'étais journaliste localier à Villepinte à la fin des années 70 et qui organise un chapitre du roman Le Der des Der. Dans une dernière lettre que Michel Ragon retrouve à Villepinte, Odette lui confie qu'elle a visité l'exposition coloniale de 1931 en compagnie de son père, qu'il voulait lui faire visiter, lui faire connaître son pays, le Cambodge, avec la reconstitution du temple d'Angkor Wat. André Derval rappelle qu'au moment de la parution du livre, Hervé Bazin avait publié un article élogieux dans le journal du dimanche, exprimant toutefois une réserve sur l'utilisation de lettres aussi intimes et en si grand nombre. Michel Ragon avait lu cette réserve dans l'article de Bazin comme le plus grand des compliments, ayant inventé de toutes pièces ses correspondances et se faisant cette réflexion. Eh bien, je suis quand même romancier. La fiction pour permettre au réel d'accoucher de la vérité et à la mémoire de faire vivre les vaincus. Merci.
Oui, Didier, toi qui as été sur la tombe de Kropotkin, est-ce que tu sais si elle a été remise en état ou si elle est toujours sous les herbes folles à Moscou?
Non, elle était en parfait état. C'est une pyramide. Dans mon souvenir, c'est une sorte de granit un petit peu rosé, ouais. Comme on en trouve en Bretagne. Ouais. Donc elle est extrêmement, extrêmement sobre, d'accord. un peu franc-maçonne.
Mais elle est entretenue, quoi.
Et oui, elle est indestructible, donc elle était sous les arbres.
Comme les idées.
Oui. Donc. Non, mais c'était un moment très extrêmement, extrêmement émouvant comme ça de se bagnauder et puis de rechercher ça. Et puis, le parcours comme ça de cette dernière manifestation d'avant la nuit, ça me rappelait le travail que j'avais fait sur Meurtre pour mémoire, où j'avais refait les parcours des manifestants de 1961 en recherchant un petit peu ce qui restait de ce qu'ils avaient sous les yeux. Et donc, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on apprend, qu'on arrive à être en communion, hein, même si le mot est connoté. Mais il y a véritablement quelque chose qui passe très, très, très fortement. Et j'ai vraiment le souvenir comme ça de cette lecture de ceux qui alertaient sur ce qui allait se passer en 1921, dans les rues de Moscou, et puis le désastre absolu qui était l'espèce de guerre de pouvoir, quasi guerre civile, qui était en train d'opprimer totalement un peuple, la manière dont on allait se débarrasser en Russie soviétique de Gorbatchev, au moyen de tout un tas de choses qui se voyaient dans la vie quotidienne, dans la manière dont les inégalités étaient criantes comme ça, et la misère était la chose la plus partagée. En lisant la mémoire des vaincus, je retrouvais tous les noms, comme ça. Dzerzhinsky, on l'avait sur sa place, devant la Lubyanka, il était là. Mais j'avais vécu sous trois apparences à Moscou pour faire mon reportage, comme un touriste ordinaire, en allant comme ça et en ayant les portes qui se referment sur vous. Après, comme un touriste qui a des dollars. Et là, vous avez toute une série de portes qui s'ouvraient, de restaurants. Et tout. Je me suis retrouvé à proximité de la Place Rouge, dans un restaurant où il n'y avait pas de place. Et je suis arrivé en montrant des dollars et aussitôt... On m'a fait rentrer, on m'a montré, et on m'a demandé où je voulais manger. Et il y avait une noce. Et donc le plus cher, alors j'ai pris le plus cher, moi j'étais en reportage, et je me suis retrouvé à la table d'honneur d'une noce. Comme ça, et donc j'ai passé une soirée et une nuit absolument incroyable comme ça. Et puis les jours d'après, j'ai fonctionné comme un partenaire économique de l'Union soviétique. Donc là, il fallait payer en carte bleue. Et donc, on n'était plus avec les roubles, on n'était plus avec les dollars adossés aux roubles. On était avec ce qu'on appelait le rouble or. Et le rouble or, donc là, vous aviez accès à une autre strate de la société soviétique. Et je m'étais retrouvé dans la rue rue Kropotkine. Il y avait la rue Kropotkine et il y avait un restaurant au 38 rue Kropotkine, qui était un des restaurants les plus fastueux de Moscou, aux murs décorés d'originaux de Rodchenko et ainsi de suite. Donc voilà, c'était ça. Et de lire la mémoire des vaincus et de vivre cette expérience comme ça dans un pays factice et qui était basé sur le trompe-l'œil, l'imposture. Comme ça, c'était très très fort, quoi. Ça soulignait le texte, quoi.
Est-ce que tu as eu l'occasion de voir l'obélisque des socialistes?
Non.
C'était l'ancien obélisque des Romanov, avec tous les tsars, qui, après la Révolution, ça a été effacé. Et les bolcheviks avaient mis une liste de tous les socialistes. Donc il y avait Kropotkine, Bakounine, Proudhon, Charles Fourier aussi. Et cet obélisque a été détruit par Poutine pour remettre un obélisque des Romanov.
Ah, d'accord.
Voilà. Mmh. On trouve une fiche Wikipédia sur en cherchant soit obélisque des Romanov ou du socialisme à Moscou.
Non, et puis ces croisements, quoi, à chaque fois la lecture d'un écrivain, sa sensibilité, elle croise la sensibilité du lecteur. Et il y a sûrement beaucoup de lecteurs qui passent furtivement sur l'exposition coloniale d'un seul coup, et puis sur les évocations de d'Anamite, hein, on les appelait et tout, qui sont envoyés par milliers dans les soutes des bateaux vers la Nouvelle-Calédonie pour travailler au nickel. Donc il y a tout ça. Et moi, quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, pour écrire sur l'exposition coloniale et tout, j'ai rencontré des descendants vietnamiens de ces gens qui ont été véritablement déportés pour être les prolétaires des mines, puisque les Kanaks refusaient de passer sous terre. Donc... Il y a tout ça. Donc dans la lecture de ces livres de Michel Ragon, il y a tout ça qui se superpose jusqu'au final avec le sanatorium de Villepin. C'est un endroit que j'ai véritablement arpenté, un endroit absolument sinistre comme ça, et avec qu'on a qui fait un chapitre d'Hilaire Dédère et que dans la bande dessinée Tardy a reconstitué. Donc d'un seul coup, il n'y a pas que la chemise, quoi. il y a toute une série de choses. Et c'est toujours mystérieux dans l'écriture de voir ces coïncidences, ces hasards qui ont été théorisés un petit peu par les surréalistes. Le hasard objectif, hein, quand, par exemple, André Breton se balade dans les rues de Paris, et il voit d'un seul coup un mot comme ça qui scintille, et il y a marqué police. Et en marchant un petit peu plus loin, un petit peu après, comme ça, avec la manière de se déplacer des lettres en relief, il voit qu'il n'y a pas marqué police, qu'il y a marqué rouge. Et donc il y a ça, quoi. Et quand on le refait, le rouge est comme ça, et qu'on le met un petit peu de biais, on a police, quoi. Il y a des choses qui... des hasards comme ça qui vous signalent comment... les dangers ou les amitiés ou les connivences, quoi. Donc là, en lisant une partie, parce que j'ai lu peu de choses de Michel Ragon, j'ai lu 6-7 ouvrages comme ça, mais le nombre de coïncidences, le parler charentais, le parler saintongeais, c'est exactement ça, les mots qu'il récupère et qu'il sauve dans ses livres, parce qu'il y a un travail sur l'énumération dans Michel Ragon qui est assez stupéfiant, et donc il y a à certains moments comme ça une profusion de mots qui sont les mots qu'il sauve de la bouche de sa mère, de ses tantes et ainsi de suite. C'est les mots que j'entendais prononcés par Olinda, mon arrière-grand-mère, quoi. Elle parlait exactement comme ça, avec cet accent-là, quoi. Donc moi, c'est pas l'accent de ma mère, c'est l'accent de mon arrière-grand-mère. Merci.